Si vous voulez vous tourner dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7. On va lire à partir de la fin du chapitre 6, verset 19, les choses qu'on a vues la semaine dernière. « Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Là où Jésus... établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchizédek, est entré pour nous en précurseur. » Et maintenant dans le chapitre 7. « Ce Melchizédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. » D'après la signification de son nom, Melchizédek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchizédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham, et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchizédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payée par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchizédek est allé à la rencontre d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre, établi à la manière de Melchizédek, et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui que visent les passages cités appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchizédek, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu, « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizédek ». Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu, qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizédek ». C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait. Saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel, il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Et pour terminer, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Amen. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de l'espérance que nous avons en Jésus. Et c'est ce qu'on voit à la fin du chapitre 6. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Et ici, on passe sur cette idée de grand prêtre et de Melchizédek, où on voit qu'il est dit, elle pénètre derrière le voile, là où Jésus établit grand prêtre pour toujours à la manière de Melchizédek, est entré pour nous en précurseur. Alors l'idée de grand prêtre, c'est un thème qui revient beaucoup dans cette lettre aux Hébreux. On peut dire qu'il y a peut-être environ 5 chapitres qui en parlent plus ou moins directement. L'idée que Jésus est prêtre de l'ordre de Melchizédek est introduite dans Hébreux dans le 2e chapitre, 2:17. Et on a vu il y a quelques semaines, Pierre a enseigné sur Jésus, notre méga grand prêtre. Si vous étiez là, vous en souvenez peut-être. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez écouter cet enseignement en ligne. Et il a détaillé un petit peu le rôle du grand prêtre dans la vie, dans la religion des Hébreux, dans la loi, dans l'Ancien Testament, et l'importance de ce personnage. Et l'auteur, il a commencé à en parler. Et puis on voit qu'il s'arrête et dans le chapitre 5, il dit « Mais vous êtes devenu lent à comprendre, je dois vous encourager » et il fait toute une exhortation sur le fait qu'ils doivent continuer dans la foi et ne pas se détourner de Jésus. Et ici, on a l'impression qu'il revient maintenant au thème, à cette idée de Jésus qui est le grand prêtre, d'après l'ordre de Melchizédek. Et c'est une idée qui est difficile, je pense, pour nous à comprendre, à saisir. La lettre, encore une fois, est écrite aux Hébreux, qui avaient une vie sociale, une vie politique, une vie religieuse qui était vraiment très liée à leur foi, qui était complètement liée à l'idée de Dieu, qui était complètement liée aux rites religieux, tout leur calendrier, toute leur manière de fonctionner dans la vie de tous les jours, dans la semaine, etc. Quand on étudie la loi, ça englobe tous les aspects de la vie dans des proportions que nous avons du mal à comprendre. Et l'idée de grand prêtre, l'idée d'avoir besoin d'un grand prêtre, c'est quelque chose qui, pour nous, est difficile à saisir. Donc c'est difficile déjà de saisir cette idée-là, et quand on rajoute Jésus et Jésus qui est grand prêtre et Melchizédek, alors on va regarder qui c'est ce gars-là, mais c'est pas évident. On peut essayer de se mettre à leur place, on peut essayer de comprendre et je vous encourage à réfléchir à ces choses, pas que le dimanche matin. La lettre aux Hébreux nous dit de considérer Jésus. La lettre aux Hébreux nous dit que un des aspects de Jésus, c'est que il est grand prêtre d'après l'ordre de Melchizédek. C'est notre grand prêtre. Et si on veut considérer Jésus, si on veut réfléchir à qui Jésus est, et si on veut s'attarder dessus, on doit réfléchir à cette notion du fait que c'est notre grand prêtre. Alors, peut-être pour donner un peu l'idée, alors Pierre en a parlé encore une fois, c'est simplement celle d'un avocat. On est au tribunal, on est face au juge et on a besoin de quelqu'un qui nous défend. Et le grand prêtre, c'était celui qui, encore une fois, dans l'étude, on va pas trop s'attarder sur son rôle, mais qui offrait des sacrifices pour le peuple. Il en offrait pour lui-même, pour ses péchés, et ensuite il en offrait pour le peuple. Et c'était lui qui avait le privilège d'entrer dans le lieu très saint derrière le voile et qui, en quelque sorte, avait accès à Dieu. C'était lui qui avait ce privilège-là. Et c'est un peu comme si on avait une situation où vous êtes reconnu coupable pour quelque chose, mais vous pouvez pas parler directement au juge. Il y a un gars qui doit faire l'intermédiaire. Il va, il vient vous voir, il dit bon, comment tu te défends? Le juge, il dit que t'as fait ça, qu'est-ce que t'as à répondre? Et puis là, tu dis bon, ben, dis-lui ça, ça, ça. Et puis là, le gars, il va voir le prêtre, le juge, et puis il revient. Et donc, il y a cette espèce d'intermédiaire, on peut pas se défendre directement, etc. Donc ce grand prêtre avait un rôle très important parce qu'il était le seul qui avait cet accès. Et le deuxième point qui pour nous est je pense difficile à comprendre, c'est simplement que nous n'avons pas pour habitude de nous considérer comme coupables. En tant que nation, en tant que peuple, en tant que personne, on est souvent on a du mal à se dire je suis mauvais vis-à-vis de Dieu, je n'ai absolument aucun recours, je suis indiscutablement perdu et condamné. Et je pense que le peuple juif, du fait de leur histoire, de la manière dont les choses se passaient, peut-être même à cause des sacrifices, ressentait que s'il y avait des péchés, etc., qu'il y avait ce besoin d'un intermédiaire avec Dieu. Mais nous, je pense qu'on est un petit peu plus loin et on a souvent l'impression qu'on n'en a pas besoin, que c'est pas très, très important, que, alors nous, en tant que chrétiens, on devrait avoir une meilleure sensibilité à ça, mais je pense que notre culture ne le présente souvent pas comme ça. Peut-être pour donner un peu plus de nuances, là encore une fois, c'est un peu comme si peut-être il y avait quelqu'un qu'on considère comme étant un criminel indiscutable qui a besoin d'être défendu. C'est, j'en sais rien, peut-être vous prenez Staline ou Adolf Hitler après la Deuxième Guerre mondiale et vous dire si on le présente devant un tribunal, comment ça se passe? Il est condamné, il n'y a aucun recours, il va avoir besoin de quelqu'un qui puisse le défendre. c'est peu de le dire. Et la Bible nous explique que nous sommes un peu comme dans une situation comme ça, vis-à-vis de Dieu. Nous sommes condamnés et condamnables sans aucune discussion possible à cause de notre péché et de notre rébellion envers Dieu. Et nous avons besoin de Jésus pour nous pardonner, pour être sauvés. Cette idée, encore une fois, je m'attarde dessus parce que c'est quelque chose qui m'a intrigué d'essayer de comprendre cette idée de grand prêtre. La Bible nous explique que nous sommes dans une situation grave. Nous sommes créés par Dieu, nous avons péché, nous sommes tombés et nous sommes dans une situation de faillite, nous sommes au bord de l'anéantissement. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas de recours. Si, là encore une fois pour donner l'idée, peut-être qu'il y en a parmi vous qui étaient vivants, moi je ne l'étais pas, pendant la guerre froide, la crise de Cuba avec les missiles nucléaires. Et il y a eu une période où le monde était réellement sur le point d'être anéanti par une guerre nucléaire. Et l'idée du grand prêtre et de Jésus, c'est que vous vous dites, si on est sur le point d'être complètement anéanti, on a besoin de quelqu'un qui aille négocier et qui aille résoudre le problème, qui soit en état de le faire. Vous n'allez pas envoyer quelqu'un qui est impulsif, qui écoute pas, qui est colérique. Pensez, s'il y a quelqu'un qui attaque la ville de Nice et qui dit on va bombarder la ville avec des bombes nucléaires, la personne que vous allez envoyer pour essayer de négocier la sortie de cette situation-là, ça va être quelqu'un dont vous estimez que c'est une personne qui a les qualités nécessaires pour le faire. Vous n'allez pas prendre ses choix à la légère. Et la Bible nous dit qu'on est dans une situation proche au bord de l'anéantissement et on a besoin de quelqu'un qui aille voir Dieu le Père pour nous sortir de cette situation. Et c'est là qu'on rentre dans cette idée que Jésus, c'est notre grand prêtre. Et Jésus a les qualités pour être notre grand prêtre parfait. C'est lui qui va pouvoir nous sortir de notre pétrin. Et on a vraiment, vraiment besoin de lui. Parce qu'on est, dans une situation de faillite sans lui. L'idée, dans la fin du chapitre 6, cette idée de passer derrière le voile, c'était cette idée que le grand prêtre passait derrière le voile une fois par an pour être en présence de Dieu. Et je voulais m'attarder aussi là-dessus parce que c'est l'idée que il a la relation avec Dieu. La Bible nous dit que nous avons été créés par Dieu pour Dieu, pour avoir une relation avec lui, pour avoir une vie avec lui, que l'objet et le but de ce pourquoi nous avons été créés, c'est d'avoir une relation avec lui. Et pour avoir une relation avec lui, nous avons besoin de pouvoir aller en sa présence. Et c'est, dans l'Ancien Testament, c'était le grand prêtre qui permettait ça. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui nous permet d'avoir cette relation, d'entrer en contact, d'avoir ce pourquoi nous avons été créés avec Dieu. C'est lui qui nous permet d'entrer et d'arriver à Dieu. Et un dernier petit point, c'est que les Juifs, pourquoi la lettre aux Hébreux s'attarde autant sur l'idée que Jésus est grand prêtre, et grand prêtre d'après cet ordre de Melchizedek? C'est parce que les Juifs avaient un blocage intellectuel. Ils disaient, mais tu dis que Jésus est le grand prêtre, mais il n'est pas de la bonne tribu. Et donc ça les choquait, ils disaient, c'est pas possible, il n'est pas... Et donc là, dans la discussion, c'est une défense du fait que Jésus est vraiment grand prêtre pour nous devant Dieu au ciel, et il va expliquer pourquoi. Et... peut-être une exhortation pour nous, c'est les Juifs, eux, avaient un blocage intellectuel à ce niveau-là, qui les empêchait, qui les freinait dans leur foi, qui les freinait dans leur relation avec Dieu. Un encouragement pour moi et pour vous, est-ce que vous avez des blocages intellectuels, des choses qui vous font douter, des choses où vous vous dites, là, je vois vraiment pas... est-ce que ça vous arrive de lire un article sur... l'évolution, sur la création, sur les miracles qu'on voit dans la Bible, sur les miracles dont on vous parle peut-être dans la foi chrétienne. Est-ce qu'il y a des choses où vous êtes bloqué, vous dites non, ça, mais vous laissez de côté? Juste une exhortation à aller chercher, à travailler pour résoudre ces blocages, pour pas que ces choses-là puissent être un frein à votre foi et à votre vie chrétienne. Alors Melchizedek, ce Melchizedek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Alors, c'est un personnage mystérieux. Il y a deux passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent de ce personnage. Dans la Genèse 14, il y a un épisode où Abraham, son neveu Lot, est pris par des rois, est enlevé, et Abraham prend ses serviteurs et va défaire dans une bataille ses rois et récupérer son neveu. Et quand il revient, on voit dans la Genèse, chapitre 14, verset 18, « Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant « Qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Abraham lui donna la dîme de tout. Ça, c'est le premier passage, nous parlant de Melchizedek dans l'Ancien Testament. Et le deuxième passage, c'est dans les psaumes, le psaume 110, au verset 4, il est dit « L'Éternel l'a juré et il ne se rétractera pas. » Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. » Et avec ces deux petits bouts de passage, le psaume 110 étant un psaume qu'on appelle messianique et qui parle de Jésus avant la venue de Jésus. Donc on voit que c'est pas grand-chose à se mettre sous la dent pour comprendre qui c'est ce gars-là. Et le livre, la lettre aux Hébreux nous développe tout un truc autour de ce personnage. On a l'impression, d'après la lettre aux Hébreux, que les Juifs avaient peut-être que c'était un personnage qu'ils connaissaient bien, ou alors ils connaissaient les textes, évidemment, que je viens de vous citer très bien. On a l'impression qu'ils le connaissaient plus que ça. J'en sais rien. Il y a des débats, si ça vous intéresse, de théologiens là-dessus, sur d'autres écrits éventuellement. Mais c'est un peu une légende, ce gars-là. On a l'impression que c'est un gars tiré du Seigneur des Anneaux avec une barbe blanche qui débarque, qui dit oh, bravo à toi, je vais te bénir et tu vas me donner un peu de ce que tu viens de gagner. Et pour les Juifs, c'était Abraham, c'était le père de la nation, c'était celui à qui Dieu avait fait les promesses. Et donc qu'un personnage comme ça déboule un petit peu dans l'histoire, reconnu prêtre du Dieu très haut, roi de paix, roi de justice, c'est ce que son nom veut dire, le texte nous le dit, et qu'il ait cette sorte d'importance où il bénit Abraham, on le voit dans le texte aux Hébreux, que dans cette culture-là, c'est le supérieur, quelqu'un qui est supérieur à l'autre, qui le bénit. Il y a cette idée de soit le père qui fait avec ses enfants, ou quelqu'un de plus puissant qui va bénir quelqu'un de plus faible. Donc il y a cette idée de supériorité. Donc Melchizedek qui est supérieur à Abraham, et ça devait sans doute interpeller. Il y avait sans doute des débats de théologiens des Juifs là-dessus. Parfois la Bible, j'ai l'impression de c'est un peu comme si quelqu'un venait vous dire, oui, hier je me promenais sur la prom et puis un vaisseau spatial qui a atterri, deux aliens sont sortis, m'ont donné une pomme et puis sont repartis. Puis j'ai continué mon chemin et puis le lendemain, on a l'impression, on se dit non mais arrête, c'est quoi ces détails quoi? Il se passe quoi? On a l'impression des fois que la Bible passe de manière on a envie de dire, mais pourquoi il n'y a pas plus de détails? Pourquoi il n'y a pas plus de choses? Et le pourquoi, je pense simplement, c'est que les détails dont on a besoin, la chose la plus extraordinaire dans la Bible, la chose qui mérite notre attention, c'est Jésus. Et Jésus, on a plein de détails. Jésus, on a plein de choses. Et souvent, on a l'habitude, Jésus, on a vu, c'est bon. Et donc, on passe un petit peu et on se dit, mais attends, Melchizedek, qui c'est ce gars-là? On entend des petits passages sur les anges, sur les néphilims, on voit des mots. Et des fois, dans les églises, il y a des gens qui passent plus de temps à s'attarder sur les petits mots où on sait pas exactement ce qui est dit. Dans l'Apocalypse, Jean, il dit, il y a une partie de choses que j'ai entendues et puis l'ange m'a dit de pas l'écrire. Alors là, il y a, qu'est-ce qu'il a entendu, etc. Et on s'attarde sur les choses qui finalement n'ont pas d'importance. C'est Jésus qui est important, c'est Jésus qui est extraordinaire. Et alors Melchizedek, on va quand même regarder ce que nous en dit le passage, mais c'était l'impression que j'avais quand je lis l'Ancien Testament. On voit, on dit, mais c'est qui ce gars-là, quoi? Il débarque, on ne dit rien, puis il repart, puis Hébreu revient dessus comme si c'était un truc formidable. Mais on a les détails qu'il nous faut sur Jésus. Et regarder Melchizedek ici dans le passage, c'est pour justement regarder et considérer Jésus. Beaucoup, alors il y a là aussi des débats de théologiens, beaucoup pensent que Melchizedek est peut-être ce qu'on appelle une christophanie dans les mots théologiques, ça serait une apparition de Jésus avant son incarnation. Donc peut-être qu'il est venu sous une forme un peu comme un ange, voir Abraham et lui parler. Et moi, je tendrais à penser ça, bien qu'il n'y a aucune assurance, pour deux raisons qui, moi, me font penser ça. Alors après, encore une fois, c'est des débats sans fin et dont on aura la réponse certaine qu'une fois au ciel. Mais il y a un passage dans Jean 8 au verset 56 où Jean se dispute, il y a les pharisiens qui le reprennent, qui essaient de le piéger, qui lui posent des questions, et puis il leur donne une réponse, et puis là ils disent non, mais nous on est les fils d'Abraham. Et il a une réponse. Il dit « Votre ancêtre Abraham », au verset 56 de Jean 8, « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Et ce petit passage, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit « Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. » Alors peut-être que le moment où Abraham a vu le jour, c'est peut-être le moment où peut-être qu'il a rencontré Jésus sous une forme d'ange et que c'est peut-être ce gars Melchizedek. On voit qu'est-ce qui lui amène à Abraham. Dans le passage dans la Genèse, il lui amène du pain et du vin. Je trouve que, en tout cas, ce sont de bonnes coïncidences. Ce serait quelque chose de... un peu comme Jésus venait et annonçait son programme à Abraham et passait un peu de temps pour se réjouir avec lui. Ce sont des hypothèses, on est d'accord, on n'est pas certain de ces choses, mais ça me semble cohérent. C'est le genre de choses dans la Bible où on peut passer beaucoup de temps, mais on n'en est pas sûr. Alors ce Melchizedek, son nom veut dire roi de justice. Melchizedek, c'est un nom composé qui veut dire roi de justice. Il est dit qu'il est roi de Salem, qui était peut-être un nom avant l'heure de Jérusalem. C'est un peu le mot détourné qui nous donne shalom, c'est cette idée de paix. Là aussi, des détails qui nous font penser évidemment à Jésus, qui est roi de justice, qui va régner dans la justice, qui est le prince de paix. Alors si vous voulez lire au verset 1 du chapitre 7, juste pour vous remettre dans le passage des Hébreux 7, ce Melchizedek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchizedek est d'abord roi de justice, ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Donc, dans le passage, l'idée qu'il n'a pas de père, ni de mère, ni de généalogie, ni de commencement de jour, ni de fin de vie, c'est que dans le texte, dans la Genèse, il n'y a aucun détail. Et dans la Genèse, en général, il y a des détails sur les gens, c'est le fils d'un tel, etc. Il y a l'histoire sur les personnages. Et donc, il y a un petit peu cette idée que le fait qu'il n'ait pas de généalogie, qu'il n'y ait rien qui soit raconté, qui a tant à dire que c'est quelqu'un d'une certaine manière d'immortel. Alors, ça tendrait à faire penser que c'est peut-être une apparition de Jésus. Ce Melchizedek, la lettre de Hébreux nous parle de Jésus comme étant de l'ordre de Melchizedek. Et dans ce verset-là, on voit que Melchizedek est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc il y a peut-être plutôt l'idée que Melchizedek est de l'ordre de Jésus. En fait, c'est le bon ordre de ce que la Bible nous explique. Il y a cette idée que c'était quelqu'un qui avait une situation incroyable. Ce sont des versets, là encore une fois, où on n'a pas d'explication sûr à 100%, on lit ces passages et on doit rester humble face à la Bible dans notre interprétation et notre compréhension de ces choses par rapport à ce personnage. Mais c'est quand même intéressant et c'est dans la Bible et donc on doit y réfléchir. Et le passage ici nous incite à y réfléchir. Donc on ne doit pas non plus voir ces versets où on n'a pas forcément d'explication et avoir peur et les éviter et dire « je ne peux pas les toucher ». Et le verset 4, il dit « Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchizédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham et il a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. » De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchizédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchizédek est allé à la rencontre d'Abraham. Donc ce verset 4 nous dit d'une certaine manière de considérer aussi ce personnage, de remarquer la grandeur de ce personnage, de nous attarder sur lui. Et donc ces versets, c'est le début d'une sorte de raisonnement logique pour discuter avec les Hébreux qui avaient ce blocage intellectuel en disant « Mais Jésus, il peut pas être grand prêtre, tu dis ça, mais il n'est pas de la bonne tribu. Il n'est pas de la famille d'Aaron, il n'est pas de la tribu de Lévi, et la loi, c'est ça les conditions. Donc explique-nous comment ça se passe, on va le voir après. » Mais il commence à défendre cette idée en parlant de Melchizédek et en disant « Mais Melchizédek, qu'on voit dans l'Ancien Testament, que vous connaissez, le père de la nation, Abraham, il a donné la dîme de tout à ce personnage. Et ce personnage a béni Abraham. Et en plus même, si vous voulez, de manière indirecte, les Lévites, qui sont supposés prélever la dîme et gérer les choses de la religion pour nous, ils ont d'une certaine manière, indirectement, payé la dîme aussi à ce personnage, puisqu'ils n'étaient pas encore nés. Ils étaient encore pas sortis d'Abraham, en quelque sorte. Et il leur dit, ce gars-là, il est important. Il a un poids et quelque chose qui ne se discute pas vis-à-vis de notre nation et de notre religion. À cause de comment Abraham s'est comporté avec lui, on voit que c'est quelqu'un de très important. Et ensuite, il enchaîne en disant « Et regardez le psaume 110. » Dans le psaume 110, en parlant du Messie et en parlant de Jésus, il dit « Tu seras prêtre pour toujours d'après l'ordre de Melchizédek. » Et il dit donc « Jésus est prêtre d'après cet ordre. » Et là, il enchaîne donc au verset 11 où il dit « Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre, établi à la manière de Melchizédek, et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron ? Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui que visent les passages cités appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. » De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchizédek, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizédek ». Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Là, il enchaîne en disant, donc on voit que Jésus avait été annoncé comme étant de ce Melchizédek, qui d'une certaine manière est supérieur à Moïse, au prêtre lévite. Et pourquoi est-ce que Dieu, au moment où le psaume 110 est prononcé, la loi existe depuis longtemps, les rites et les sacrifices de la loi sont en place depuis longtemps, au temps de David, pourquoi est-ce que Dieu vient introduire un autre ordre ? Il dit, mais Jésus aurait très bien pu naître dans la bonne tribu pour qu'il puisse être prêtre dans l'ordre normal de la loi, comme vous le connaissez. Et là, il va leur dire, parce que la loi auquel les chrétiens hébreux, auxquels cette lettre est écrite, ils avaient une tentation de revenir à la loi, de revenir mettre leur confiance et leur vie en appui sur la loi. Et là, il va leur dire, voyez bien que la loi n'était pas parfaite. Pourquoi est-ce que Dieu aurait promis et annoncé un autre ordre, quelque chose d'autre, si la loi qui était déjà en place était suffisante? Vous voyez bien qu'elle n'est pas suffisante. Et là, il va le dire, elle n'est pas parfaite. C'est au verset, alors c'est où? Au verset 19. La loi n'a rien amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi, on en a déjà parlé, mais la loi ne nous permet pas d'être sauvés. Le peuple juif avait fini par mal comprendre et mal interpréter la loi et se dire qu'il pouvait être sauvé par la loi. Et le Nouveau Testament, les écrits de Paul, beaucoup, vont nous expliquer que la loi ne nous permet pas d'être sauvés. Respecter des règles ne nous permet pas d'être sauvés. Nous avons un problème spirituel et nous ne pouvons pas le régler en respectant des lois. Et ici, il leur dit, vous voyez bien, alors il y a un nouvel ordre de prêtrise avec Melchizedek, et s'il y a une nouvelle prêtrise, s'il y a ce nouveau régime, c'est qu'il y a aussi besoin de quelque chose de nouveau au niveau de la loi, et qu'il y a quelque chose, c'est un changement complet il y a quelque chose de nouveau qui arrive à la place de la loi et des prêtres. La loi, pour comprendre ce à quoi elle sert et ce que la Bible nous en dit, c'est l'idée d'un étalon, d'une norme, d'un standard. On voit, ok, ça c'est ce que Dieu exige. Mais savoir ce que Dieu exige ne nous aide pas à le respecter, ne contribue absolument à rien à nous changer pour que nous vivions comme Dieu l'exige. C'est un petit peu comme si vous pensiez c'est un outil de diagnostic. C'est un petit peu comme si on pensait qu'un outil de diagnostic médical était quelque chose qui nous guérissait. Est-ce que vous pensez qu'un stéthoscope vous guérit? Non. Aucun d'entre nous ne pense qu'un stéthoscope n'arrive à nous guérir. Mais le stéthoscope va être utilisé par un médecin pour vous dire, là, il y a un problème. Il y a des machines qui permettent d'établir des diagnostics, il y a d'autres choses qui permettent de guérir le problème. Si vous avez des os cassés, des choses à l'intérieur que vous passez, j'en sais rien, un IRM ou un scanner, c'est pas le scanner qui vous guérit. Ça vous montre qu'il y a un problème. Et après, il faut trouver une autre solution pour être guéri. Et la loi, c'est ça. La loi nous montre qu'il y a un problème. On n'arrive pas à suivre les commandements de Dieu. On n'arrive pas à respecter et on a besoin d'autre chose. Et cette autre chose, c'est ce que Jésus amène. C'est cet autre ordre, c'est cette meilleure espérance que nous avons vue la semaine dernière. Et Paul, là, il est en train de leur rappeler que ne retournez pas à cette loi qui n'amenait rien à la perfection. Ne revenez pas en arrière. Ça ne suffisait pas. C'est pour ça que Dieu a introduit quelque chose de nouveau. Et au verset 20, il dit « Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. » C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Les Lévites étaient prêtres de père en fils, il y avait une notion de ça continuait. Mais Jésus, lui, est installé de manière permanente par une promesse de Dieu en disant « je le promets, je n'en démords pas, il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. » Et cette meilleure alliance, encore une fois, c'est cette idée que nous pouvons avoir l'assurance et que nous sommes sauvés par la foi en Jésus. Que nous n'avons pas besoin d'être toujours dans cette hésitation, dans ce on en a parlé déjà encore une fois, de la loi, des rituels, des choses qu'il fallait qu'il fasse. Le grand prêtre, quand il allait aller dans le lieu saint, il devait offrir des sacrifices pour lui-même, puis il allait dans le lieu saint, il n'était jamais sûr s'il avait suffisamment fait, si la culture que nous avons du peuple juif nous raconte qu'on lui attachait une corde à la jambe pour que quand il rentrait, si jamais au bout d'un moment il bougeait plus, ils avaient des clochettes autour de leurs habits et on lui accrochait une corde parce qu'on savait jamais quand il entrait dans le Saint des Saints s'il allait pas se retrouver en défaut vis-à-vis de Dieu. Il a pas fait ce qu'il fallait, il était en tort, il était toujours dans le péché, il avait pas bien fait son boulot. Et crac, là, il se retrouvait, et du coup, on ne pouvait pas rentrer dans le Saint des Saints pour aller le chercher, donc il fallait le, c'est un problème. Et tout, je vous ai parlé de l'épuisement qui suit la loi quand on parle de qu'est-ce qui est respecter les règles. Quand j'ai enseigné la dernière fois, c'était sur ces choses-là, mais c'était, la loi est épuisante, c'est un poids, c'est un fardeau, et on n'est jamais sûr, on est toujours en, et Jésus vient et dit, je veux que vous sachiez que si vous croyez en moi, vous êtes sauvés et que vous n'avez plus à avoir peur et vous pouvez profiter de cette assurance et de cette tranquillité que je vous sauve. C'est moi qui ai payé, c'est moi qui... C'est notre avocat, il va devant Dieu le Père, il dit, celui-là, il est avec moi, c'est bon, j'ai payé. Et on peut avoir cette assurance, cette meilleure alliance, cette chose qui est meilleure. Et c'est Jésus qui est le garant. C'est Jésus qui... Est-ce que vous avez déjà eu besoin d'un garant? Vous avez pas suffisamment pour payer, vous devez faire signer quelqu'un qui a suffisamment pour payer. Et nous, c'est Jésus notre garant. C'est lui qui, quand on n'arrive pas à payer le loyer, au lieu de se faire jeter dehors en enfer, Dieu le Père vient voir et Jésus dit, je paye. Et au verset 23, de plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Est-ce que vous avez déjà vu des situations dans le monde où il y a quelqu'un de très bon qui a une position de pouvoir et... Pour une raison ou pour une autre, il n'est plus là et celui qui vient à la place, il est mauvais. Je ne sais pas moi, un patron à votre travail, vous aviez un patron qui était génial et puis il part, il déménage, il se fait virer et là le patron qui vient à la place, il est horrible. Ou un politicien, il y avait un politicien qui était très bon, qui faisait bien les choses, qui avait de l'intégrité et puis le gars qu'on retrouve après, on se dit mais c'est la catastrophe, c'est horrible, etc., etc. Il y a plein d'exemples, évidemment, mais l'idée, c'est qu'on peut se retrouver avec quelqu'un d'une autre qualité. Et là, l'idée, c'est que les prêtres, ils étaient là pour quelques années, puis on se retrouvait avec quelqu'un d'autre à la place, qui était peut-être pas, on sait jamais, c'est peut-être pas suffisant. Et là, avec Jésus, on n'a pas à redouter ce genre de choses, à se dire, est-ce qu'il va y passer, puis après, on ne sait pas s'il sera toujours... pensera toujours aussi bien de moi que la personne avant. Jésus, c'est bon, il est là, ce sera toujours lui, on n'a pas à redouter le changement, il a annoncé ces choses et on peut s'appuyer dessus, on n'a pas à avoir peur d'un changement de sa personne ou de qui il est. Et la Bible nous dit qu'il intercède pour nous. Ça c'est vraiment incroyable de se dire... que Jésus, quand on considère qui il est, quand on considère tout ce que la Bible nous en dit, et de nous dire qu'il est devant le Père à prier pour nous. Et quand on entend cette idée d'intercession de la part de Jésus, c'est un mot un peu savant, un peu déconnecté peut-être de notre réalité, de notre quotidien. Des fois, on a le sentiment que Jésus... ce que je vous disais, cette idée d'avocat, que le jour où on termine notre vie ici-bas, et puis on arrive au ciel, et là, Jésus va intercéder, va dire « Non, c'est bon, il est avec moi. » Mais dans cette idée, il y a l'idée vraiment de il prie pour nous. Si vous avez déjà prié pour quelqu'un de votre famille, de quelqu'un que vous aviez sur le cœur, c'est comme ça que Jésus est devant le Père. Et dans dans Luc 22, on a un passage où Jésus parle à Simon et lui dit « Simon, Satan vous a réclamé pour que vous passiez au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Et on voit là, dans ce passage, un petit aspect de comment Jésus intercède pour nous devant le Père, et il prie pour nous avant que les choses nous arrivent, avant les difficultés, dans les difficultés, dans les bonnes choses. Il nous a sur le cœur et il prie Dieu et dit « Dieu, donne-lui de la force, je sais que ça va arriver, sois avec lui, aide-le. » Et il a vraiment il est proche de nous. C'est cette idée de grand prêtre. On peut avoir cette idée de quelqu'un qui est lointain, un peu comme si on nous disait c'est notre président ou c'est notre c'est le juge du tribunal, etc. Il nous connaît pas tant qu'on n'est pas. Mais là il y a vraiment l'idée qu'il est là continuellement devant Dieu le Père, à parler à Dieu le Père de nous. Et d'intercéder pour nous. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et je vous invite à y penser et à le considérer dans les jours qui viennent. Verset 26. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Plutôt, je vous parlais de l'idée qu'on voulait quelqu'un, si on devait avoir un négociateur pour nous dans une situation de crise, on voulait quelqu'un qui ait les qualités morales requises, qui ait le caractère, qui soit pas n'importe quoi et n'importe qui. Et Jésus a le CV, a le résumé de la personne que l'on veut avoir comme notre avocat, comme notre grand prêtre. Ici, il est dit « saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. » Là aussi, peut-être pour vous changer les idées, si en ce moment, dans notre monde moderne, vous sentez par moment que vous en avez marre d'entendre parler de politique et de l'insuffisance morale, des reproches qu'on peut faire à tous les hommes politiques, tous les hommes qui nous représentent, tous les gens que nous avons autour de nous dans notre système du monde. Si vous avez envie de vous changer les idées, réfléchissez au fait que Jésus, lui, n'est pas comme ça, n'est pas comme nous. Il est saint, il est irréprochable, il est sans souillure, il est séparé des pécheurs, il est plus élevé que le ciel. Lui n'avait même pas... Il n'avait même pas besoin d'offrir de sacrifice pour ses propres péchés, comme les grands prêtres dans l'ancien temps. Ils devaient s'occuper d'abord d'eux-mêmes, puis ensuite, s'ils avaient le temps, ils pouvaient s'occuper des autres. Mais Jésus, lui, il était parfait. Il n'a pas eu besoin d'offrir de sacrifice pour lui. Et il peut, d'une certaine manière, directement s'occuper de nous. Et on voit qu'il a fait une fois pour toutes que c'est réglé, que c'est fini, que c'est bon. Ça doit nous encourager, ça doit nous réconforter, ça doit nous, encore une fois, nous donner une paix et une tranquillité de savoir que que nous avons cette assurance que Jésus est notre grand prêtre et qu'il nous défend devant Dieu le Père et qu'on peut vivre avec la tranquillité à ce niveau-là. Et au verset, alors au chapitre 8, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et a accompli son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Ça, ce sera pour la semaine prochaine, mais il y a l'idée que Jésus, qui est ce grand prêtre, et c'est encore une fois avec les Hébreux et la défense de l'idée que Jésus est un grand prêtre supérieur à l'ancien ordre. Et là, il va se développer avec une vision du ciel et montrer que le tabernacle, c'est qu'une image de ce qui se passe au ciel et que Jésus, lui, n'est pas tenu dans le tabernacle de ce monde, mais que lui est grand prêtre dans le tabernacle qui est au ciel. Et c'est quelque chose d'une vision glorieuse qu'on peut voir dans l'Apocalypse notamment, et que je suis sûr que Pierre s'attardera là-dessus, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. Mais Jésus est là-haut à nous défendre devant le Père, il est là-haut à prier pour nous devant le Père, et c'est quelque chose qui doit nous tranquilliser, c'est quelque chose qui doit nous donner la paix, et quelque chose qui est final. Si vous croyez en Jésus, vous avez l'assurance que Jésus, qui est le grand prêtre parfait, qui a fait tout ce qu'il fallait, qui a offert les sacrifices, qui a payé notre dette, est devant Dieu à dire « Ceux-là sont les miens, ils sont avec moi, c'est bon. » Et à prier pour nous, et c'est... Il y a tellement d'aspects sur lesquels on peut s'attarder, mais je vous invite, comme le fait la lettre aux Hébreux, de réfléchir à ces choses, de considérer ces aspects de Jésus, de réfléchir peut-être à cette idée de grand prêtre. Essayez de vous le mettre en contexte, essayez de comprendre ce qu'est un grand prêtre pour vous, ce que ça signifie pour vous. Il y a le message de Pierre, il dit il y a quelques semaines, sur notre super, notre méga grand prêtre, si vous voulez écouter ça et vous le remettre en tête, mais vraiment considérez cet aspect de Jésus cette semaine. Et si vous ne croyez pas en Jésus, assurez-vous que vous avez bien le bon grand prêtre quand vous allez arriver devant Dieu. Là aussi, c'est nous avons besoin de lui. Prions. Jésus, merci d'être notre grand prêtre. Merci pour ce passage. Merci pour le fait que tu as amené quelque chose de mieux que la loi. Merci que nous pouvons avoir l'assurance de ton amour, de ta grâce envers nous. Que nous pouvons avoir cette assurance d'être sauvés, que nous pouvons avoir cette paix que tu veux pour nous, que si nous croyons en toi, Seigneur, nous sommes sauvés, acceptés par le Père, que nous avons cette relation, que nous pouvons te suivre dans le Saint des Saints. Tu es entré pour nous en précurseur et nous pouvons entrer aussi et être en communion avec toi, avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, que nous avons cet accès, ce libre accès, Seigneur. Que comme plutôt dans la lettre aux Hébreux, tu es un grand prêtre qui nous connaît, qui comprend nos difficultés, qui a vécu ici sur terre et qui intercède pour nous auprès du Père. Seigneur, aide-nous à méditer ces choses. Aide-nous à faire de ces choses les histoires que nous racontons, les choses sur lesquelles nous passons nos moments de réflexion, Seigneur, nos, nos moments à la maison, le soir. Donne-nous ce réflexe de réfléchir à qui tu es, de te considérer, de réfléchir à ces différents aspects dont nous parle la Bible, Seigneur, de ta personne et de qui tu es. Seigneur, aide-nous à nous réjouir en toi, à te rendre gloire, Seigneur, que nos cœurs, en nous attardant sur toi, en prenant ces choses et en y réfléchissant, Seigneur, que ça fasse naître des louanges envers toi, Seigneur, parce que tu les mérites, parce que tu es grand, parce que tu nous sauves, parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Ancre ces choses dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ce temps ensemble. Bénis notre temps de communion fraternelle maintenant. En ton nom, nous prions. Amen.